Bonjour à toutes et à tous, c'est Didier sur EDFM pour un nouveau rendez-vous compte. Aujourd'hui, un rendez-vous compte consacré aux mots, des mots MOTS et des mots MAUX. Et notre invité va nous en faire la démo, rendez-vous compte. Bonjour Hélène.
Bonjour Didier.
Hélène Souhaud.
Oui.
Alors des mots.
Ah oui, des mots dans tous les sens.
Voilà, ça va être un petit peu le thème de l'émission. Bonjour aussi à Camille, 12 ans. Bonjour Camille.
Bonjour.
Hein, qui est avec nous en studio et qui va vivre sa deuxième expérience de radio. Bon Hélène, tu as consacré une partie essentielle de ta vie, c'est-à-dire ta carrière professionnelle, quoi. Tu l'as consacrée essentiellement aux mots MOTS et mots MAUX. Une carrière qui a évolué, mais toujours consacrée aux mots. Prof de français d'abord.
Oui. Au Plessis-Bouchard, ouais. Et le collège a changé de nom, il a été longtemps le collège Marcel Pagnol, et il est maintenant le nom de Marie Curie, mais le nom
polonais. C'est un très beau collège, tout neuf,
hein,
dans la
absolument.
Plaine. Voilà. Alors prof de français, origine de cette vocation, puisque c'est une vocation, moi qui suis aussi prof de français, les mots.
La lecture, hein, au départ, on aime lire, on fait des études de lettres, et puis au bout du chemin des études de lettres, l'enseignement s'offre à vous facilement. Enfin, voilà, on réussit à décrocher le CAPES.
Oui. Il y a beaucoup de postes en jeu encore en ce moment. Si vous êtes candidat, allez-y, c'est le moment. Mais aussi, une belle expérience de radio avec tes élèves.
Oui,
du Plessis.
Tout à fait. Il y a une dizaine d'années maintenant. C'était un projet de collège. Les quatre troisièmes avaient participé. On avait eu l'aide d'une jeune femme travaillant à France Culture qui était venue nous aider à construire notre chemin de fer. J'ai découvert des termes à ce moment-là. Donc, chaque classe avait travaillé sur un sujet différent. De mémoire, il y avait une classe sur le handicap, une classe sur le Brésil et deux autres thèmes que je n'ai plus en tête.
La Coupe du Monde.
Il y avait la Coupe du Monde. C'était la période de la Coupe du Monde, exactement.
Et un jour, changement de registre, si je puis dire, tu abandonnes le métier d'enseignant. Tu le quittes en tout cas.
Alors ça a été progressif. Pendant 10 ans, j'ai été moitié prof, moitié psy, en variant un petit peu l'équilibre selon les années, selon le développement de la clientèle en tant que psychothérapeute et psychanalyste. Et au bout de 10 ans, j'ai cessé l'enseignement.
De toute façon, quand on est prof, surtout le français, on est quand même un peu psy. Hein.
Oui, tout à fait. Quand on lit les rédactions des élèves, on découvre plein de choses.
Voilà. Parce que c'est quand même, je crois, la seule discipline où on peut vraiment permettre aux élèves d'exprimer des choses très personnelles et souvent très, très riches.
Mmh.
Voilà. Et depuis, donc, les mots MOTS, et parce que tu es écrivain biographe. Alors déjà, pourquoi pas écrivaine biographe ?
Oh là là, bonne question. Alors, sur mon blog que tu as parcouru, j'interviewe des auteurs. Et moi, il y a un sujet du blog où justement la question de comment on parle d'une femme qui écrit. Je suis passée par toutes les possibilités de laisser auteur au masculin, de mettre un E à auteur ou de mettre autrice. Il me semble que finalement, je suis restée sur autrice. En discutant avec les autrices concernées, comment préférez-vous être appelée ? Et c'est vraiment compliqué parce que personne n'est d'accord.
Autrice, c'est pas forcément très joli à l'oreille. C'est plus clair d'un autre côté.
C'est une question d'habitude en fait. Hein.
Voilà.
Parce que quand un mot qu'on n'entend pas, on le trouve pas joli. Et puis plus on l'entendra, plus on le trouvera joli.
C'est un peu comme les gens peut-être, je sais pas. Alors sur ton blog, oui, que j'ai vraiment parcouru, tu es membre de l'association NPI. Alors ça m'a fait un peu sourire.
NPI. Le titre de cette association est un peu provocateur. Donc, nègre pour inconnu.
Alors, nègre parce que c'était l'ancienne désignation.
Des écrivains de l'ombre.
De l'ombre qui écrivait pour les écrivains célèbres.
Voilà.
Hein? Et donc, maintenant, on ne dit plus ça du tout. Hein.
Non, le terme reste connu, mais c'est vrai qu'il est plus. Ce terme est tellement connoté qu'il est difficile à passer.
Voilà. Et comme un petit slogan, l'écoute et l'écriture sont mes deux passions. Je les mettrai à votre service pour partager l'aventure de votre vie.
Mm-hmm.
Un beau programme.
Super programme.
Magnifique. Et tu ajoutes même, votre vie est un roman, racontez-la moi. tu vas me dire si j'ai un petit peu extrapolé, mais tu mets « Votre vie, je l'écrirai pour vous et avec vous ». Et ça, ça m'a fait penser à une réplique du film « La Belle et la Bête » de
Cocteau.
Jean Cocteau, ouais. Puisqu'à un moment, la belle se retrouve dans sa chambre en face de son miroir. Mmh. Et le miroir lui dit « Belle, je suis votre miroir, réfléchissez pour moi et je réfléchirai pour vous.
Mmh. »
Et donc là, c'est un peu... voilà.
Écrire pour vous et avec vous. Bah, évidemment que raconter la vie de quelqu'un, ouais. Cette personne est absolument partie prenante. Après, dans la mise en forme, mise en mots, organisation des paragraphes, je fais mon boulot d'écrivain, mais tout le matériau vient de la personne qui raconte sa vie. Et qui relie et qui valide à chaque étape ce qui lui convient ou pas. Hein. Il y a des choses qu'on dit comme ça dans le feu de l'action et puis finalement on n'a pas trop envie que ça soit lu, donc on peut les retirer, tout est toujours possible.
Alors justement, je me suis demandé un peu en référence à La Belle et la Bête, hein, ce film fantastique, est-ce qu'il y a une relation un petit peu magique, envoûtante entre le biographe et son, on va dire, son commanditaire?
Oui, se noue quelque chose de très particulier. Comment parler de cette relation? J'ai beaucoup de mal à en parler sans faire référence à la psychanalyse, parce que c'est quand même ce que je connais le mieux et ce que j'ai pratiqué le plus longtemps. Et il y a le même apprivoisement, c'est-à-dire qu'au départ, on y va sur la pointe des pieds. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis bien légitime? Et puis, la langue se délie, les souvenirs reviennent. Et c'est un vrai plaisir pour la personne qui raconte et pour moi qui rassemble et compile tout ça. Et quand on voit l'œuvre se prendre corps sous nos yeux, c'est extrêmement satisfaisant.
Nous sommes bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous conte où nous recevons Hélène Souho, écrivain, biographe. On écoute le premier titre choisi par Hélène, Ma plus belle histoire d'amour, 1966, par Barbara.
Voilà, Barbara. Pourquoi Alors c'est une très belle histoire aussi ce titre.
Ouais. Ah, pourquoi Barbara? Je pense que là ça fait référence précisément à Mr. Right, hein, ce roman, cette histoire écrite à quatre mains, parce que Mr. Right c'est ça, c'est Mr. Right c'est monsieur le bon, c'est-à-dire le prince charmant, celui qui convient, et cette quête amoureuse dans ce livre. Se traduit d'une autre façon avec la chanson de Barbara qui elle aussi court désespérément après sa plus belle histoire d'amour dans cette chanson.
En même temps, sa plus belle histoire d'amour, c'est avec le public.
Oui, alors c'est vous, c'est le public. On a souvent dit c'est le public, mais quand on écoute la chanson, il y a quand même bien des hommes en chair et en os derrière tout ça.
Du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes. Du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. Que ce fut, j'étais précoce, de tendres amours de gosse, ou les morsures d'un amour fou. Du plus loin qu'ils m'en souviennent, si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est vrai, je ne fus pas sage et j'ai tourné bien des pages.
Et on reviendra un petit peu après, plus en détail, sur ton activité donc d'autobiographe, si on peut dire, de biographe. Mais tu as collaboré aussi avec l'association Clé, l'association hermontoise qui agit contre l'illettrisme.
Alors c'est un début de collaboration parce que je suis en période de formation. J'apprends à accueillir un public soit non francophone, soit illettré.
Clé, ça veut dire compter, lire, écrire.
Voilà.
Donc c'est une association qui existe depuis très longtemps à Hermont et qui effectivement essaye de permettre à des gens illettrés, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais appris à lire.
Non, c'est pas ça. Alors j'ai découvert ça tout récemment dans cette formation. Un analphabète n'a jamais appris, n'est pas allé à l'école. Oui, l'illettrisme, oui. Ce sont des gens qui sont allés à l'école avec des parcours souvent un peu chaotiques, mais qui ont eu des bases d'apprentissage scolaire et qui ont perdu ces bases.
Et c'est très compliqué dans la vie de tous les jours.
Extrêmement.
Ouais. Alors, pour revenir à ton activité d'écriture, on va dire, comment les gens qui ont envie d'écrire l'histoire de leur vie, est-ce qu'ils viennent à toi ?
Ah, c'est une bonne question parce que c'est assez compliqué. C'est essentiellement ainsi par internet. Le site NPI est un site assez bien mis en avant quand on fait des recherches sur internet, et par ce site NPI qui renvoie à mon propre site d'écrivain biographe.
On donnera les coordonnées à la fin de l'émission.
Voilà. En cherchant Hélène Souhaud, biographe, on y arrive.
Voilà, sur Google.
Pas de problème.
Alors quand même, souvent, si les gens viennent te voir pour écrire l'histoire de leur vie, ça peut être aussi l'histoire de leur famille.
Tout à fait.
Transmettre une histoire familiale. C'est souvent le cas.
Oui. En commençant cette activité, j'avais certaines dates en tête, notamment l'écart qui se creuse entre la Seconde Guerre mondiale et nous aujourd'hui. Et je me suis dit, pour recueillir, si je veux avoir la mémoire vivante de ces gens qui ont encore des souvenirs, alors c'est des souvenirs d'enfance, hein, des gens qui étaient adultes pendant la guerre, ils sont très 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 âgés, il y en a encore quelques-uns, c'est maintenant. Et c'est passionnant. Alors c'est des anecdotes d'enfants, donc on voit ça, c'est souvent vu à hauteur d'enfants. Alors après on leur a raconté et ils racontent ce qu'on leur a raconté. Je me souviens d'un très vieux monsieur qui m'a raconté avoir fait une ronde à la fin de la Première Guerre mondiale. Alors là c'était l'éclat total puisque les filles et les garçons étaient rassemblés ensemble et avaient le droit de se donner la main pour faire la ronde. Il avait 6 ans.
Oui, effectivement, j'ai regardé un peu dans ton blog, ce sont souvent des histoires de la guerre, justement.
Oui, c'est les choses qui... Alors, il n'y a pas que ça dans les histoires de famille, mais la guerre est un élément saillant qui a toujours son petit lot de légendes familiales, oui.
Alors, tu donnes aussi sur ton blog les règles du jeu de la collaboration entre le biographe et son commanditaire, on va dire. Alors, les règles du jeu ou les règles du jeu, c'est un peu pareil, si on veut faire un peu un jeu de mots. Alors, quelles sont ces règles, justement ? Très précises, très rigoureuses.
Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la personne qui raconte sa vie reste propriétaire de sa vie. Donc, elle peut toujours ajouter ou retrancher ce qu'elle souhaite. Il y a des règles très très simples et très basiques de fonctionnement, c'est-à-dire où et comment se passent les séances. C'est généralement des séances d'une heure, mais souvent on a du mal à s'arrêter à la fin de l'heure. Hein. Quand on est parti dans ses souvenirs, ça continue. Et puis c'est des règles sur le paiement des séances, évidemment. Le paiement se fait au fur et à mesure que le manuscrit avance, heure par heure. Donc la difficulté que soulèvent certains clients, c'est mais comment on sait combien de temps ça va durer et combien ça va coûter au final. C'est un budget, un investissement qui... Le but étant surtout de faire une édition ou une impression pour ses proches, donc c'est de l'ordre de 20, 50, 100, si on a beaucoup d'amis ou de proches à qui on souhaite communiquer ce manuscrit. Ça peut être les demandeurs peuvent être les enfants ou les petits-enfants également, parce que c'est vraiment très dommage de laisser partir des anciens qui n'auraient pas raconté tout ce qu'ils ont vécu. L'image du coffre à trésors, c'est-à-dire que le cerveau d'une personne âgée, c'est comme un coffre à trésors, et ne pas l'ouvrir, c'est criminel. Faut aller regarder ce qu'il y a là-dedans et essayer de contempler tous ces trésors avant qu'ils ne s'éteignent.
Voilà, selon le proverbe, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle.
Ouais, c'est ce qu'on dit en Afrique.
micro.
Nous sommes bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte où nous recevons Hélène Souhaud, écrivaine, biographe. On écoute le deuxième titre choisi par Hélène, Smooth Operator, Chad, 1984.
On retrouve Hélène Souhaud sur IDFM dans ce rendez-vous compte. Alors pourquoi ce titre Smooth Operator ?
Alors là, c'est toute ma jeunesse. moi, j'ai jamais été fan de qui que ce soit. Je ne suis pas une groupie. J'ai du mal à comprendre ces gens qui perdent la tête en concert, etc. Mais Sade, c'est le seul artiste dont j'avais tous les albums. Cette voix envoûtante, pour moi, c'est le summum de la sensualité, Sade. Voilà.
En même temps,
tout simplement.
Qu'est-ce qu'on appelle un smooth opérateur ?
Alors, c'est un gars qui agit en douce. C'est un séducteur. Hein. C'est l'histoire d'un sale type, en fait, cette chanson. Alors, à l'époque, personne ne comprenait le sens, mais j'ai fait des recherches. Effectivement, c'est l'histoire d'un séducteur qui entourloupe les femmes d'un bout à l'autre des États-Unis.
Ça serait bien d'écrire l'histoire d'un smooth operator.
Ah oui.
On va essayer d'en trouver.
On va essayer d'en trouver.
C'est pas ce qui manque. Alors, est-ce qu'il y a parfois, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, un conflit moral entre le commanditaire et son biographe, par exemple en cas de révélation dérangeante, si quelqu'un t'avoue. D'ailleurs, j'ai déjà eu ce cas-là quand l'année dernière j'ai reçu une autre femme biographe, quelqu'un qui peut lui avouer un crime commis autrefois.
Ah ouais.
Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Ah, on va dire s'il y a prescription, mais...
Il y a prescription, mais... Alors, c'est drôle que tu me poses cette question parce que j'ai un roman en période de relecture là, qui est terminé et pour lequel je cherche un éditeur. Ce roman raconte plusieurs thérapies. C'était une thérapie de groupe où plusieurs personnes travaillent ensemble. Et un des personnages finit par lâcher une participation à un meurtre. Et son groupe de thérapie est bien embêté en se disant « Mais qu'est-ce qu'on fait de ça ?» Il y a la confidentialité de la thérapie. Alors, j'ai pas eu le cas. Hein, je n'ai exploré ça que par la fiction. Je n'ai pas encore eu de cas dans les biographies ou dans mes vrais patients de gens qui m'aient raconté des choses répréhensibles par la loi. Mais oui, conflit... À mon sens, le vrai conflit, c'est est-ce qu'on a besoin de se libérer de cette chose et comment se passe cette libération ? Après, l'hypothèse où ça serait pas prescrit et où il faudrait vraiment en référer à la loi, écoute, je n'ai pas...
Tu touches du bois.
Je touche du bois pour que ça n'arrive pas. Ça serait passionnant, mais voilà.
En même temps, tu es tenu au secret professionnel.
Tout à fait.
Alors, ce que tu dis aussi, c'est que, évidemment, quand tu passes une heure avec quelqu'un qui te raconte sa vie, derrière, après...
Ah, il y a un énorme travail. Ah, oui.
D'écriture, de synthèse, de relecture, donc c'est... Voilà. Et puis au final, quand même, une somme, tu disais, pas négligente, parce que...
Négligeable.
Négligeable, négligente, voilà, c'est pas mal non plus. Pour un livre, mettons, de 120 à 150 pages, il faut compter, s'il est vraiment édité, ça peut aller entre 1000 et 5000 euros.
Voilà, c'est ça. Hein,
ouais. Pour une cinquantaine d'exemplaires, c'est ça ?
Voilà.
Ouais. Donc c'est un coût, mais la mémoire est un coût, quoi.
Exactement.
Voilà. On va donner deux exemples d'œuvres que tu as écrites, on va dire, à deux voix, à deux mains, avec tes clients. L'une qui m'a retenu mon attention, celle qui s'appelle alors Monsieur Right et Mrs. Wrong.
Ça, c'est le titre, c'est voilà. Le titre de l'œuvre, oui. Ouais. Mr. Right, Mrs. Wrong. Bon,
ça m'a fait penser, évidemment, avec Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Enfin, oui. C'est une belle histoire.
Alors là, c'est une histoire qui est très, très loin de la biographie familiale, avec un aspect historique. C'est vraiment une femme qui souhaitait confier sa vie intime et sentimentale. Donc, c'est une histoire d'un tout autre ordre.
À la recherche de l'homme idéal.
À la recherche de l'homme idéal.
Alors, est-ce qu'on le trouve en allant chez un biographe ?
On peut raconter comment on l'a trouvé ou comment on l'a perdu. Mais après, la littérature, ce qu'on est en train de faire là, cet entretien à la radio, c'est des rencontres, tout ce qui peut nous permettre de sortir de son carcan et de sa prison intérieure est toujours bon à prendre. Normalement, les séances de biographie ou les séances de psychanalyse ne sont pas des clubs de rencontres. Hein. C'est pas pour ça qu'on vient.
Je retiens quand même l'expression prison intérieure. Est-ce qu'on est tous emprisonnés dans son intérieur ?
À mon sens, quelqu'un... Moi, ça m'arrive d'avoir parmi mes clients en psychanalyse des gens qui ont atteint la cinquantaine, qui n'ont jamais fait travailler sur eux-mêmes. Et j'ai le sentiment d'ouvrir un coffre-fort qui avait bien besoin de s'aérer. Parce que ne jamais faire le point sur sa vie, ne jamais faire un peu l'inventaire de ce qu'on a reçu de ses parents, ça nous laisse mariner dans des choses qui ne sont pas toujours très saines et très équilibrées. Hein.
Alors un autre ouvrage qui m'a intéressé, hein, toujours que tu as rédigé à deux mains, ou à quatre mains, enfin je ne sais pas, à plusieurs voix avec la personne qui était venue te voir, ça s'appelle Marie-France. Et là, Marie-France, c'est aussi un des grands thèmes, je crois, de l'autobiographie.
Oui, le secret de famille.
Voilà. Et l'enfant caché, l'enfant qui est ressurgi.
Voilà.
Hein, donc c'est une très belle histoire aussi. Hein.
Magnifique. Voilà. Ouais.
Alors, on peut le trouver, donc, ces deux livres sur la couverture et une explication sur ton blog. Alors, à propos des photos, justement, les deux, qui est-ce qui choisit les photos ?
Ah, bonne question. C'est l'auteur.
Il n'y a que des bonnes questions, tu remarqueras.
C'est l'auteur qui choisit. Alors l'auteur, on est co-auteur, hein, mais c'est un projet que j'accompagne, mais qui se fait, qui émane de la personne qui raconte sa vie et qui souhaite transmettre telle ou telle information, aller dans telle ou telle direction. Pour Marie-France, c'est la photo réelle de cette Marie-France retrouvée. Est perdu à la fois, puisque quand Michel, l'auteur, la retrouve, elle est morte depuis 30 ans. Donc c'est une enquête autour d'un fantôme.
L'enfant du secret.
L'enfant du secret.
Nous sommes toujours bien à l'écoute de ce rendez-vous compte sur IDFM. On retrouve Hélène Souhaud, écrivain biographe de la vie des autres. Alors, quels sont les bienfaits de l'autobiographie, Hélène ?
Ah, ils sont nombreux. Alors, je vous disais... Pour des personnes vieillissantes, le fait de raconter, de faire travailler sa mémoire, de ressortir des souvenirs, c'est une satisfaction personnelle et c'est un travail très utile pour entretenir ce muscle qu'est la mémoire et qu'il faut faire travailler autant que possible. C'est aussi une façon de revisiter une des parties de sa vie et donner un sens à tout ça, donc de comprendre ce qu'on a pu traverser dans sa vie. Ça peut être raconté pour penser ses plaies.
Alors penser, évidemment, écrit des deux façons.
Exactement.
P-E-N ou P-A-N.
Et pour digérer certaines choses. Alors... Il y a beaucoup de gens qui souhaitent écrire des biographies justement parce qu'ils ont été très très malmenés par la vie. Hein. C'est une demande très importante de les gens qui ont perdu un proche beaucoup trop jeune, vécu une maladie terrible. Il y a aussi, alors on fait attention à ça, des gens qui sont en conflit, en procès. Et là, c'est délicat même légalement de se lancer dans une écriture quand il y a quelque chose en cours de jugement. Là, c'est un cas où l'écrivain biographe a tendance à ne pas s'aventurer. Et puis, raconter sa vie, c'est tout simplement prendre un temps pour soi, quitter ses corvées quotidiennes et se donner, prendre la vedette, voilà, à l'occasion de ces entretiens. Voilà, j'existe, je suis importante, ce que j'ai fait à compter, et comme d'autres vont faire un massage, c'est un massage de l'esprit et du souvenir.
Nous sommes bien sur IDFM, à l'écoute de ce rendez-vous compte où nous recevons Hélène Souhaud, écrivaine biographe. On écoute le troisième titre choisi par Hélène. Camille, ta douleur, extrait son deuxième album Le Fil, 2005.
Alors pourquoi ce titre, Camille, ta douleur?
Ah, ta douleur, prendre ta douleur. Là, c'est pareil, il y a un aspect esthétique, c'est un très beau son, cette voix qui a du swing. Et puis, qu'est-ce que fait un thérapeute? Alors, il ne prend pas la douleur, il l'allège, il l'accueille, mais c'est vrai qu'en thérapie, on travaille avec la douleur. Donc c'est très rare hein, de trouver les chansons parlent d'amour, les chansons parlent de rupture, mais la douleur, même la douleur physique, hein, c'est rarement abordé. Et je trouve que cette chanson est un joli
programme
pour quelqu'un qui accueille la douleur.
Voilà, on écoute.
Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas, je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur. Saboter l'interrupteur. Je vais prendre ta douleur. Mais ce qui s'est incrusté, cet orage avant l'été, cette chépine petite sœur. Tout lui confisquer ses fléchettes et son sifflet. Je vais lui donner la fessée. Je vais prendre ta douleur. La vraie douleur.
Alors Hélène, je crois que tu écris pour toi aussi et oui, que tu cherches un écrivain, un éditeur, pardon.
Oui, j'en suis. Alors c'est très compliqué l'aventure de l'édition. Je m'intéresse beaucoup aux petits écrivains, alors il y en a beaucoup. Hein,
petits écrivains ou petits éditeurs?
Les petits écrivains qui ont trouvé des petits éditeurs, parce que justement je leur demande comment ils ont fait, et j'ai écouté comment les autres se sont débrouillés dans ce maquis touffu de l'édition, c'est quand même très instructif. J'ai sur mon blog interviewé pas mal de petits écrivains. Alors là, c'est pareil, j'ai l'impression de faire aussi mon boulot de psy ou mon boulot de biographe tout ensemble. Les gens qui ont un livre, c'est un enfant, hein. On le porte pendant des mois, on finit par l'accoucher, on finit par le mettre sur le papier, et ce qu'ils ont à dire sur leur livre c'est toujours des entretiens passionnants. Donc c'est ma première voie d'accès à, voilà, comment eux s'en sont-ils sortis dans ce labyrinthe de l'édition, et je vais m'y mettre, mais toutes vos suggestions sont les bienvenues si vous avez le livre qui cherche un éditeur, c'est un livre qui raconte une thérapie de groupe, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc c'est du roman, c'est de la fiction, c'est léger, c'est plaisant, mais il y a une petite base. Pour un thérapeute, je pense que c'est intéressant de repérer les techniques, les astuces, comment ça se passe, et il se passe quoi dans une thérapie de groupe, et sur quel levier on appuie pour faire avancer les gens, et sur quel. Alors il n'y a pas énormément de verbiage théorique, hein, on est directement dans les mains dans le coin bouillie et dans les séances, mais ça s'appuie sur un guidage et des penseurs et des gens qui ont travaillé sur la façon d'organiser, de cadrer ce type de travail.
Voilà, notre émission est terminée, ça passe très très vite. Hélène, comment fait-on pour te joindre? Alors, tes coordonnées?
Alors, je vous conseille tout simplement de taper Hélène Souhaut, S-O-U-H-A-U-T sur Google et vous me trouverez en tant que thérapeute, en tant qu'écrivain, en tant que biographe, bien sûr. Si vous souhaitez me contacter, vous trouverez mon numéro de téléphone, mes coordonnées, je réponds toujours.
Et tu habites à Saint-Leu-la-Forêt?
Et j'habite à Saint-Leu-la-Forêt dans le Val d'Oise.
Merci aussi à toi, Camille.
De rien.
Voilà, c'était Didier Delattre. Vous retrouverez le podcast de l'émission sur le site d'IDFM. À la semaine prochaine. Même heure, même adresse. Culture, jeunesse, solidarité, citoyenneté, environnement. On fait le plein dans notre département et dans notre rendez-vous compte, évidemment.